Docteur Colomb, bonjour.
Bonjour.
Docteur Colomb, vous êtes médecin territorial en charge de la direction des actions de santé confiées au département des Bouches-du-Rhône. Docteur Colomb, quelles sont ces actions?
Alors, il s'agit des actions de santé, toutes ayant une orientation sociale et de prévention, qui sont confiées au département. Alors, elles sont de deux types principaux actuellement. Même on peut dire de trois types et on va rapidement les énumérer. Alors, il s'agit tout d'abord des actions de santé, on va dire, effectuées en direct auprès des usagers, avec des consultations médicales, comme toute action. Donc, deux types, je disais là, à ce niveau-là. Une action inscrite au code de la santé publique, c'est la PMI. On va y revenir. Je vous décrirai un petit peu ce qu'est exactement ce concept de protection maternelle et infantile. Et puis, un certain nombre d'actions confiées au département dans le cadre d'une convention avec l'État, qui avait fait l'objet, lors de la première décentralisation, de compétences des départements. La loi d'août 2004 avait donné la possibilité aux départements de les restituer à l'État. Le département des Bouches-du-Rhône, comme le prévoyait la loi d'ailleurs, a décidé de poursuivre ses activités et donc développe l'ensemble de ses activités, à savoir la prévention des IST, le dépistage du VIH, donc les SIDA, les CDAG, l'accès à la vaccination, la lutte contre la tuberculose et la prévention des cancers. Je pourrais en dire un mot si vous voulez.
Docteur Colomb, s'il vous plaît, parlez-nous de la PMI. Qu'est-ce que c'est?
Alors, la protection maternelle et infantile, c'est un concept maintenant ancien, puisqu'il est né avec les ordonnances de 1945. À cette époque-là, c'est un ensemble de dispositifs qui permettait, au sortir de la guerre, de lutter contre l'effroyable mortalité infantile qui existait à cette époque-là. Bien entendu, les choses ont changé parce que la mortalité infantile a énormément régressé et que les problématiques en matière de santé chez enfants sont totalement différentes à l'heure actuelle. Bon, je pense qu'on peut dire que l'état de santé des enfants est plutôt satisfaisant. En revanche, on observe des difficultés, des problèmes de santé. Plus spécialement, notamment auprès de certaines populations vulnérables, puis un certain nombre de difficultés également en matière de repérage de certaines difficultés d'ordre psychologique ou psychosocial, on peut dire des choses comme ça, qu'il importe de détecter tôt pour pouvoir apporter des solutions thérapeutiques qui peuvent aider l'enfant, d'autant plus qu'il est qu'il vit dans un milieu pas toujours adapté à ses besoins.
Docteur Colomb, au quotidien, l'action pour la PMI, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'action pour la PMI, ça se passe à Nantes natale et chez l'enfant jusqu'à 6 ans. C'est une action auprès de l'enfant dans tous ses lieux de vie, que ce soit l'école, la crèche. Voilà. Il faut insister tout particulièrement sur la loi réformant la protection de l'enfance, là du 5 mars 2007, qui remet en lumière l'action de prévention de la PMI en matière notamment de tout ce qui est mauvais traitement chez l'enfant. Cette loi confère au président du Conseil général un rôle majeur en matière de protection de l'enfance et désigne la PMI comme étant l'acteur de prévention numéro un en ce domaine. Que ce soit donc en anténatal avec l'instauration de ce que l'on appelle l'entretien du premier trimestre chez les femmes enceintes, où à ce moment-là, il doit y avoir un entretien qui permet de faire un certain nombre de points sur l'arrivée de ce bébé-là dans la famille. Puis tout un ensemble d'actions auprès de l'enfant qui arrive, que ce soit des visites à domicile, que ce soit des visites à la maternité, toute forme de repérage et d'accompagnement pour faire en sorte de mettre en évidence toute difficulté pour un enfant et pour faire en sorte que cette famille accueille cet enfant dans les meilleures conditions. Un point également aussi pour tout le travail du Conseil général, pour tout ce qui est mode d'accueil de la petite enfance. Le Conseil général est chargé de délivrer les agréments des structures d'accueil collectif et des assistantes maternelles.
Docteur Colon, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un SIDAG ?
On appelle chez nous SIDAG parce qu'on a introduit, on insiste sur la notion d'information des personnes. Donc le I, c'est information. Centre d'information et de dépistage anonyme et gratuit, donc du VIH. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place dès au lendemain de l'apparition de l'épidémie VIH dans les années 85. Et l'État a souhaité mettre en place sur l'ensemble du territoire des centres destinés à recevoir les personnes souhaitant bénéficier d'un dépistage anonyme. Ça, c'est très important. Tout le monde peut y aller et n'est pas obligé de décliner son identité. Gratuit, bien entendu, de façon à en permettre un accès aux soins à toute personne, autant de fois qu'il le souhaite, chaque fois qu'il a la perception d'un risque. Il s'agit d'un dépistage. La personne revient chercher son résultat et à ce moment précis du dépistage, la personne est reçue et une analyse de sa situation et des risques est réalisée avec le médecin qui le reçoit, de façon à aboutir avec lui, s'il le souhaite, à une approche en termes de réduction de risque. C'est l'élément essentiel pour voir comment il peut être amené à se protéger dans la situation qu'il vit, que ce soit quand il s'agit d'un risque sexuel, quand il s'agit d'un risque sanguin avec les toxicomanies, voilà. Donc nous avons une dizaine de centres sur l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, y compris deux centres en milieu pénitentiaire, puisque la loi prévoit que les personnes en milieu pénitentiaire, dépistage leur soit proposé.
Docteur Colon, le Conseil général des Bouches-du-Rhône s'intéresse de très près à la tuberculose. Qu'en est-il dans notre département ?
Alors, la tuberculose est une maladie transmissible qui ont pensé dans les années 85-90 que cette maladie était éradiquée. Malheureusement, à cette époque, on a vu apparaître dans les grandes métropoles urbaines, notamment outre-Atlantique, de grosses inquiétudes et l'apparition même de résistance aux médicaments antituberculeux, aux antibiotiques. Donc l'inquiétude a monté, elle n'était pas infondée, puisque on s'est aperçu également que non seulement on s'est aperçu que l'incidence s'est arrêtée de diminuer progressivement, et même parfois ici ou là, sur certaines populations, voire sur certaines territoire a pu un petit peu augmenter. Alors, la tuberculose est une maladie particulière qui est connue, qui est vieille comme le monde et qui nécessite, qui actuellement, il faut savoir que le diagnostic de la tuberculose actuellement se fait comme il se faisait il y a 50 ans. Le traitement, malheureusement, c'est un traitement qui dure 6 à 9 mois. Donc, cette maladie nécessite des moyens particuliers pour la dépister et la traiter. Alors, des moyens de prévention, il y en a. C'est le BCG, c'est le vaccin par le BCG. Il a quelques inconvénients et on a pu dire que le rapport bénéfice-risque de ce vaccin n'était pas forcément en faveur d'une utilisation en population générale. Donc il semble légitime de réserver ce vaccin pour les populations les plus à risque. La prévention essentielle sur laquelle il faut compter, il faut mettre l'accent, c'est la prévention et le repérage des tuberculoses auprès des populations les plus à risque, de façon à dépister précocement la tuberculose et la traiter. Quelles sont les populations les plus à risque ? D'une part, la première population les plus à risque, c'est l'entourage des cas. C'est-à-dire que chaque fois qu'une tuberculose est diagnostiquée, il y a une intervention autour de ce cas pour repérer des personnes éventuellement contaminées et pourquoi pas le contaminateur possible. Et donc ça forme une grande catégorie de personnes à risque qui font l'objet donc de cette intervention autour d'un cas qui est une des compétences du Conseil général, qui met en place donc un dispositif très très important, puisque nous mettons en place un centre spécifique sur Marseille. Et nous allons y associer une unité mobile de radiologie qui va pouvoir aller au-devant des sites sur lesquels un tel problème se développerait. Parallèlement, il nous faut mettre en place une surveillance de la tuberculose sur tous les regroupements de personnes particulièrement vulnérables, où l'on va retrouver des personnes en grande précarité, des migrants en provenance de pays de forte incidence. Donc là, l'objectif est de permettre, notamment avec cette unité mobile, d'aller au-devant des CHRS, d'aller au-devant des foyers ADOMA. Avant, on disait Sonacotra, mais maintenant ça s'appelle l'ADOMA. Tous les foyers de population en grande précarité, dont on sait que l'incidence de la tuberculose est encore très très élevé.
Docteur Collomb, au-delà de l'action de la santé, on va dire classique, des conseils généraux, qu'est-ce que fait le Conseil général des Bouches-du-Rhône ?
Alors, vous faites bien de poser cette question, puisque on vient de décrire les actions inscrites au Code de la santé ou en convention avec l'État. À côté de cela, on peut dire que le Conseil général est un partenaire santé important. Pourquoi ? En fait, et notamment suite aux lois de décentralisation de 2004, le Conseil général est devenu l'acteur social de proximité numéro un sur le territoire. Alors là-dedans, il faut y inclure l'APA pour les personnes âgées, il faut y inclure l'allocation compensatrice pour les personnes handicapées, il faut y inclure les maisons départementales des personnes handicapées qui sont élues de la loi de février 2005. Il faut aussi voir donc la compétence très importante du Conseil général en matière de RMI, et notamment dans ce domaine-là, un volet santé de par rapport à l'insertion des personnes, est important également. Parallèlement à ces actions, où l'action sur la santé des habitants des Bouches-du-Rhône se fait peut-être de manière indirecte, mais a un impact à l'évidence, hein, apporter un mieux-être dans une famille agit directement sur l'état de santé. À côté de cela, le département des Bouches-du-Rhône a un œil vigilant sur l'état de santé de la population et apporte un soutien financier important, que ce soit à l'hospitalisation publique, l'APHM beaucoup, en apportant des subventions d'équipement sur de gros équipements, radio, à l'IPC également, mais également des subventions de fonctionnement sur un certain nombre de dispositifs médicaux du type des réseaux, du type d'organisation de soins qui peuvent être subventionnés, des associations de patients également peuvent trouver là un soutien financier qui leur permet de développer l'action. Donc on peut dire que le Conseil général est un acteur de santé, au même titre que les grands opérateurs que sont l'hôpital ou bien sûr la médecine libérale.
Docteur Collomb, je vous remercie beaucoup.
Merci, à votre disposition si vous voulez voir les agents en action sur le terrain.